Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, un rendez-vous encore neuf, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio aux coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient addictif. Cette semaine, rediffusion d'une formidable série de Sur les Dogs de 2009, La mondialisation en 57 facettes, un grand voyage dans la petite famille du diamant, par Benjamin Bibas et Emmanuel Chicon, réalisé par Jean-Philippe Navarre. Au départ de cette série, il y a une fascination pour ces pierres tirées de la terre, des cailloux qui peuvent rendre fous, et aussi une envie de regarder au-delà des reflets trompeurs. Parce que le diamant, c'est un fantasme, mais surtout c'est un travail infernal pour ceux qui creusent, et un commerce qui rapporte pour ceux qui vendent, et accessoirement, c'est un voyage qui raconte nos histoires coloniales, commerciales, sociales et économiques, l'histoire de rapports de force qui basculent du Congo à Bombay, en passant par Anvers et Dubaï. Pour commencer, les personnages, des vendeuses aux petits soins, des designers de bijoux, des hommes d'affaires, des banquiers, des gens riches, des vendeurs qui réussissent et des acheteuses qui ne savent même plus comment dépenser leur argent. Ensuite, le décor, de vastes centres commerciaux de luxe où dégouline une musique d'ambiance sucrée, de la clim, des fenêtres fermées, des tours, des buildings, des sociétés à qui logera ses bureaux le plus haut, une anverse verticale et des bureaux opulents au mobilier tape à l'œil. On est aux Émirats, à Dubaï, et soudain l'argent n'a plus la même valeur.
La mondialisation en 57 facettes. Un grand voyage dans la petite famille du diamant.
Quatrième volet, Dubaï, Émirats Arabes Unis.
Maintenant, le diamant, ça se passe à Dubaï. Avec 7 vols quotidiens entre l'Allemagne et le Golfe, 15 entre Londres et Dubaï. Pensez à l'activité commerciale que ce trafic génère. C'est un endroit pour les riches. Allez-y, vous verrez comment la ville se développe. C'est ahurissant. Regardez les shopping centers, les centres commerciaux, les voitures, au niveau des salaires, l'argent coule à flot là-bas. Et les autorités locales veulent attirer le business. Elles sont très proactives. Par exemple, elles ont créé le DMCC, Dubai Multi Commodities Center, et des zones économiques spéciales pour le commerce des diamants. Il y a aussi un grand building de 50 étages, la Almas Tower. Almas en arabe, ça veut dire diamant. Tout le monde vient échanger des pierres. En plus, Dubaï est plus proche de l'Afrique, plus proche de la Russie, de l'Europe et de l'Inde. Pile à mi-chemin entre ces trois continents. S'implanter là-bas est devenu évident pour tout le monde, pas seulement pour moi.
Cheikh Emploi Service.
Benjamin Bibas, Emmanuel Chicon, Jean-Philippe Navarre.
Jean Van Der Donkt, à votre avis, pourquoi le gouvernement de Dubaï a-t-il estimé à un moment donné que le diamant était un secteur stratégique et sur lequel il fallait qu'il mette de gros moyens pour faire venir la communauté diamantaire mondiale ici, à Dubaï?
Je crois que Dubaï, comme d'autres États des Émirats, se sont rendus compte que le pétrole n'était pas éternel, et qu'il était grandement temps de pouvoir diversifier également les revenus de la région.
Je suis Brigitte Dumortier, maître de conférence à l'Université de Paris-Sorbonne, et je dirige l'axe Golfe du programme Citadin, qui signifie « Comparer l'intégration des territoires et l'adaptation du droit dans le monde arabe et indien ». Il s'agit plus concrètement de voir au fond comment l'Inde et les pays du Golfe adaptent leur législation pour attirer les entreprises, pour s'intégrer dans la mondialisation. Dubaï, qui avait peu de pétrole, était forte d'un certain nombre d'atouts, notamment sa tradition marchande. En 1901, alors que le Shah d'Iran cherche à imposer des droits de douane au port de la côte, l'émir de Dubaï propose aux marchands de la rive d'en face de venir s'installer à Dubaï. Donc on a, dès cette époque, cette tradition marchande. Le deuxième atout de Dubaï, cette tradition marchande, vient aussi du fait que Dubaï a été un grand port pour la pêche perlière, donc ce qui a donné très tôt une habitude du négoce des produits de luxe. Et accessoirement, Dubaï a été un haut lieu du trafic de l'or en direction de l'Inde, puisque Dubaï est un protectorat britannique depuis le milieu du 19e siècle. Cette tradition marchande donne une tradition d'ouverture, mais également l'existence de familles marchandes qui ont déjà un minimum de capitalisation et qui sont rompues au commerce international. Donc Dubaï va miser très clairement, dans un premier temps, sur le commerce international, va construire des hôtels pour les hommes d'affaires. On va se mettre aussi à développer le tourisme international. L'actuel émir de Dubaï, donc, souvent on le considère comme un chef d'entreprise. Hein. On dit c'est un petit peu le PDG de Dubaï. Je dois dire aussi qu'aujourd'hui, Dubaï, ce qui explique aussi les changements, c'est le rôle extrêmement important des experts venus de tous les continents qui jouent un rôle très important dans les décisions. C'est-à-dire que ce pays fait appel aux meilleurs analystes financiers, aux meilleurs économistes pour gérer son développement.
Peter Mills, vous nous recevez ici au Dubai Multi Commodities Centers. C'est une plateforme importante mise en place par le gouvernement dubaïote pour faire de Dubaï un lieu important du commerce, du diamant brut, du diamant taillé. Vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, quand ça a été créé, ce que vous y faites vous-même ?
Eh bien, le commerce en diamant à Dubaï est encore très jeune. Ça a commencé il y a 10 ans, et il y a 10 ans il n'y avait presque pas de chiffre d'affaires, mais le ruler de Dubaï, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, est un visionnaire qui voulait créer de Dubaï un hub pour tous les commodities, de l'or, de l'argent, plastique, n'importe quoi. Et le diamant est évidemment un commodity précieux et intéressant. Et c'est pour cette raison qu'il y a 6 ans, 7 ans, qu'on a établi le DMCC, le Dubai Multi Commodities Center. Pourquoi le diamant ? Parce que Dubaï se trouve entre l'Afrique, de l'un côté, et l'Inde. L'Inde, producteur de 95% de tous les diamants qui sont fabriqués dans le monde entier.
Diamant poli.
Diamant poli, en effet. Et bon, cette vision disait simplement, dans l'avenir, c'est peut-être possible d'avoir le diamant aller directement de l'Afrique aux Indes via Dubaï.
Directement, vous voulez dire, sans passer par d'autres lieux par lesquels il transitait auparavant ?
Oui.
Cher Maktoum a doté le pays d'infrastructures, non seulement les infrastructures matérielles qu'on a évoquées, c'est-à-dire les ports, les aéroports, mais aussi des infrastructures immatérielles, et aussi la mise en place de réseaux de télécommunications. Par ailleurs, très tôt, on a mis en place à Dubaï, ça a été le premier endroit dans la région où, dès les années 90, on a mis en place des zones franches. La première étant Jebel Ali, donc liée à ce port en eau profonde. Bon, c'est pareil, au début, tout le monde disait c'est n'importe quoi, cette zone franche extrêmement grande. Elle a été très vite saturée. En 2005, on en a doublé la superficie. Et en 20 ans, le nombre d'entreprises est passé d'une centaine à l'ouverture à plus de 6 000 aujourd'hui. Et on y trouve vraiment toutes les grandes multinationales, tous les grands noms. Ensuite, il y a une zone franche aéroportuaire, ce qui est assez classique. Et puis, après ces zones franches, on est arrivé à la mise en place de zones franches désormais très spécialisées. Alors, il y a d'abord eu Internet City, Media City, Knowledge Village, qui montrent le désir de Dubaï de s'insérer dans ce qu'on appelle aujourd'hui la société de la connaissance. Et puis, des zones franches également sur des segments qui sont toujours des segments ou à haute technicité ou à haute valeur ajoutée. Par exemple, une des plus récentes, le Gold and Diamond Park, hein, qui à la fois perpétue cette tradition de l'or à Dubaï, mais qui introduit une activité toute nouvelle qui est le diamant.
Rihan Mehta dirige la filiale dubaïote de la firme indienne Rosy Blue, leader mondial du diamant.
Nous avons ouvert un bureau dans la zone franche et un autre en dehors. Pour le deuxième, nous devions obtenir une licence et créer ce qu'on appelle une Limited Liability Company, LLC, l'équivalent d'une société à responsabilité limitée en droit dubaïof. La zone franche est pratique pour ceux qui veulent importer les marchandises de Bombay, les affréter et les réexpédier ailleurs sans payer les droits de douane. Qui autrement s'élève à 5% pour les bijoux. Quand vous voulez vous implanter hors d'une zone franche, vous avez besoin d'un sponsor local, c'est-à-dire d'un associé émirati qui participe à hauteur d'au moins 50% de votre capital. Il faut donc une licence. Et le sponsor peut aussi faciliter les contacts. Nous avons la chance d'avoir deux sponsors, M. Khoury et le Dr. Matushi. Ils nous ont beaucoup aidés en nous permettant de rencontrer certaines personnes importantes ou en intercédant en cas de problème avec un client. Monsieur Khoury sponsorise plusieurs entreprises ici. Il a beaucoup de relations, en particulier au sein de la famille royale. La communauté locale est petite, tout le monde connaît tout le monde. Et les Arabes sont très amicaux. Ils soutiennent beaucoup les investisseurs, car ils savent qu'à la fin, cela crée de la richesse dans leur pays.
Nora Jamcher, vous êtes originaire du Bahreïn, vous êtes mariée à un émirati dubaïote. Vous êtes actuellement à la tête d'une organisation non gouvernementale, Developing Diamond, et vous avez aussi travaillé au sein de la Dubai Diamond Exchange, donc la bourse des diamants dubaïote, au début également des années 2000. Est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce qui vous a amené à travailler au sein du secteur diamantaire ici à Dubaï?
Je suis entrée au DMCC, la structure qui chapeaute l'industrie diamantaire, en octobre 2002. Mon premier projet a été de faire en sorte que les Émirats arabes unis se conforment au processus de Kimberley, dont l'application a commencé fin 2002. L'entrée des Émirats dans ce processus s'est traduite par l'arrivée à Dubaï de diamants bruts qui étaient auparavant négociés à Anvers et expédiés depuis l'Europe vers les usines de taille en Inde. Donc de nombreux diamantaires ont démarré une activité ici. Et au même moment, l'Union européenne a mis fin au régime fiscal de faveur que les autorités belges avaient accordé aux diamantaires basés à Anvers, qui ont dû soudain payer beaucoup de taxes. Alors Dubaï est apparu comme un refuge où ils pourraient économiser de l'argent.
Les dernières années à Anvers n'étaient pas aussi agréables que j'avais voulu. Le diamant a changé beaucoup les dernières 10 années. Surtout, toutes les firmes petites et les firmes moyennes ont eu beaucoup de problèmes. Et ça a créé une atmosphère un peu négative, avec beaucoup de gens qui ne savaient plus quel est notre avenir. On avait beaucoup de fils et filles de diamantaires qui quittaient le métier. Dans un milieu où on ne voit plus l'avenir, où on voit tout le secteur diamantaire contrôlé par les Indiens, Anvers est plus que 75%, c'est extrêmement difficile à travailler. Ce qui m'a attiré, et je suis vraiment encore très content de l'avoir fait, ici à Dubaï, c'est une atmosphère vraiment positive.
Manish Kothari, vous êtes le directeur de Alio Jewels LLC, installé ici à Dubaï, une firme de bijouterie, notamment dans le diamant. Vous êtes indien. Pouvez-vous nous raconter la façon dont vous êtes installé ici à Dubaï?
Ça fait presque 20 ans que je suis dans ce métier, dont je connais presque toutes les facettes. J'ai commencé ma carrière dans le tri des pierres brutes et j'ai aussi travaillé dans les activités de taille. J'ai opté pour le marché qui me paraissait le plus prometteur. J'ai dû arbitrer entre Anvers et Dubaï. Je suis allé une ou deux fois en Belgique, mais je voulais entrer sur un marché encore vierge. Alors j'ai choisi de venir m'installer ici, au Moyen-Orient. Ça fait presque 20 ans maintenant et ça a été un voyage formidable. Je suis Jain. Je viens de Bombay. Et mon boss, lui, est originaire de
Jaipur. Initially, they started with the wholesale.
Notre société, Allure Jewels LLC, a commencé ici comme grossiste en pierre et en bijoux. Et comme les affaires marchaient bien, nous avons installé une usine à Bangkok qui fabrique les bijoux que nous écoulons dans cette partie du monde. Par exemple, les clients viennent de Bahreïn, de Doha, pour faire leur shopping à Dubaï. En plus, il n'y a pas de taxes ici, y compris dans les centres commerciaux. Et les marchandises peuvent très facilement entrer et sortir.
Dubaï avait, et malheureusement, là encore, un tout petit peu, la réputation d'être une place de transit. Les marchandises rentraient et quittaient Dubaï en ayant les 24 heures et les 48 heures. Et il n'y avait pas vraiment de manipulation ou de travail qui avait été fait sur les marchandises. La seule chose qu'on faisait, on augmentait la valeur de manière artificielle afin de pouvoir comptabiliser du bénéfice ici à Dubaï. Et il faut savoir qu'à Dubaï, tout ce qui est exportation est tout à fait free of tax. Le gouvernement de Dubaï a donné, entre autres aux diamantaires, la possibilité de ne pas payer de taxes pour les 50 ans à venir. Il faut savoir que les diamantaires, comme je crois beaucoup d'autres industries, n'ont jamais aimé payer de gros impôts. Et en Europe ou aux États-Unis, vous payez 40% ou plus de 40% d'impôts sur votre bénéfice. Il était donc normal pour certaines grandes firmes internationales d'essayer de maximiser le rendement sur les capitaux investis et de faire du bénéfice en dehors d'Anvers ou en dehors des États-Unis.
Beaucoup d'Indiens menaient déjà des activités ici. Mais ils ont été les premiers à venir dans le secteur du diamant. Ensuite, la communauté diamantaire belge est arrivée, puis les Américains. Bref, tout le monde s'est intéressé à Dubaï. Et l'idée que l'Émirat puisse devenir une place diamantaire s'est rapidement imposée à tous. À partir de 2006, les Indiens ont accru leur présence ici en recrutant plus de personnel et en ouvrant des bureaux de négoce. Du coup, Dubaï n'est plus uniquement un lieu de transit pour les diamants. On y trouve les plus importants site holders ou clients indiens de la De Beers comme Rosie Blue, Eurostar, Super Gems. Leur présence s'explique aussi par l'importance du marché. Le monde arabe et le Moyen-Orient représentent le troisième marché de consommation de la bijouterie diamantée à l'échelle mondiale.
Vous avez une carte du monde derrière vous. Nous voyons plusieurs petits diamants roses et bleus. C'est le logo de Rosie Blue que l'on voit dans beaucoup d'endroits du monde. On voit à New York, un autre à Anvers, un autre en Suisse, un autre au Luxembourg. Anvers, vous rencontrez Dick Meta, un autre en Asie, à Bombay, Thaïlande, Japon, Chine, Hong Kong, Sri Lanka, l'Afrique du Sud, en Israël, bien sûr, en Arménie, à Dubaï, ici bien sûr où nous sommes.
So as you can see, that's where we are. Luckily for us, it is quite a central location.
La situation géographique de Dubaï est idéale. Vous pouvez atteindre par vol direct les marchés des Émirats Arabes Unis, d'Oman, de Bahreïn, de l'Arabie Saoudite, du Qatar, de la Jordanie, de l'Afrique du Nord. Nous nous approvisionnons également en pierres brutes sur le marché à Dubaï et nous les envoyons en Inde.
We source from here and we sell it in India.
Dans quelle partie de l'Afrique vous approvisionnez-vous en diamants bruts, Rien Meta?
Sierra Leone, Ghana.
Les diamants bruts que nous achetons ici viennent de Sierra Leone, du Ghana, du pays d'Afrique de l'Ouest. Nous avons également un bureau à Johannesburg qui s'occupe, lui, de l'Afrique australe. Nous effectuons aussi des achats de bruts dans des pays comme le Brésil ou situés dans le nord de l'Amérique latine. Nous sommes en train d'étudier les opportunités en Guyana, au Venezuela,
So it's this entire belt over here.
Et en Afrique, est-ce que vous approvisionnez également en République démocratique du Congo ?
Oui, absolument.
Beaucoup de pierres congolaises sont exportées par des négociants libanais sur la place de Dubaï. Nous avons des approvisionnements constants en provenance de la RDC, des diamants qui viennent de Kinshasa.
Les systèmes de contrôle à Dubaï sont pas forcément très convaincants. Ils ont un système sur papier, un système technique qui est très bon. Ils ont les dernières technologies, les services de douane sont très au fait des dernières technologies.
Annie Denneback, de l'ONG britannique Global Witness, est observatrice du PK, ou processus de Kimberley, mécanisme international de certification d'origine des diamants bruts.
Mais ce qui manque à Dubaï, c'est le monitoring gouvernemental. Fédéral, je dirais. Tous les diamants doivent passer par l'émirat de Dubaï. C'est le seul émirat qui a le droit d'importer ou d'exporter des diamants bruts. Et on se rend compte que l'organisation qui met en œuvre le PK dans les émirats, c'est une organisation qui est mandatée par le gouvernement fédéral, mais qui finalement est un groupe qui est là pour pousser la commercialisation des diamants, en fait. Donc c'est un groupe qui est vraiment industriel, qui représente les priorités de l'industrie. Quand on regarde les statistiques, on se rend compte que la valeur qui rentre à Dubaï, surtout à partir de l'Afrique, est évaluée beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que les diamants qui sortent. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est parce qu'il y a une sous-évaluation au niveau africain ? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a autre chose qui se passe à Dubaï ? C'est des questions.
Et donc ici, c'est le dernier étage, le 63e de cette Almaz Tower, une tour qui compte donc... 63 étages, ça doit faire plus de 200 mètres, ça, non ? C'est gigantesque.
Oui, ça doit faire 200, 205 mètres, oui. Enfin, parce qu'il y a encore une flèche.
On a vu grand.
Pas trop ?
Ici, on a vu grand.
Vous allez voir. Ma question est pas trop.
Si nous avions su ce qui allait se passer aujourd'hui, peut-être qu'on l'aurait vu plus petit.
Quand un diamantaire arrive ici, il se présente à l'accueil en précisant qu'il vient voir, par exemple, Diarov ou Rosyblou au 10e étage. Et alors, seule sa carte d'accès personnelle lui permet de prendre l'ascenseur et d'y accéder. C'est comme à Anvers, mais en plus moderne. Si les diamantaires négocient des pierres brutes à Almaz Tower et veulent les exporter, ils n'ont pas besoin de passer d'abord par l'aéroport pour obtenir leur certificat de Kimberley. Les colis sont contrôlés directement ici et les transporteurs viennent ensuite les récupérer pour les acheminer jusqu'à l'avion.
Le DMCC est une institution gouvernementale qui a été créée il y a une dizaine d'années pour faciliter les transactions, le négoce et le diamant. Enfin, où le DMCC a petit à petit créé son équipe avec une petite dizaine d'Anversois, puisque c'était là, et c'est là que il y a un énorme centre diamantaire, et encore toujours. Et cette équipe anversoise, ce sont des gens qui ont fait du négoce, ont fait du public relation, ont fait du management, ont fait de la finance et également... Nous avons une bourse qui est copiée un peu sur Anvers. Nous avons un Diamond Office qui reprend les fonctions de douane. Et on m'a demandé de m'occuper ici à Dubaï, de mettre en place un système financier avec les banques locales pour financer le marché diamantaire, aussi bien à l'importation qu'à l'exportation.
So we have two operations. One is the traders who
Nous menons deux types d'opérations. Il y a d'abord les négociants qui achètent le brut dans les pays dont je vous ai parlé et qui viennent ensuite nous les vendre à Dubaï. Mais nous avons aussi nos propres acheteurs qui se rendent dans les pays producteurs de brut pour acheter les pierres et les importer ici. Une fois que les diamants bruts sont à Dubaï, nous en redistribuons une partie vers nos usines situées en Afrique du Sud, en Arménie, au Sri Lanka, en Thaïlande, en Chine et en Inde, bien sûr, que j'ai failli oublier. L'autre partie des pierres est vendue à des industriels indiens qui viennent à Dubaï pour se fournir en brut. À Dubaï, nous essayons de trouver d'autres sources d'approvisionnement en diamants afin de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Rosy Blue est dirigé par quatre familles. Trois portent le nom de Mehta et la quatrième celui de Mansali, le nom d'un cousin. Arun Kumar Mehta, le fondateur de la compagnie, est le père de Russell, que vous avez rencontré à Bombay. Moi, je suis le fils de Harshad, l'un des deux frères du fondateur. Le troisième frère, Dilip Mehta, que vous avez rencontré à Anvers, dirige aujourd'hui le groupe Rosy Blue. Son fils Dipu est responsable du marché américain et son autre fils Vishal est chargé du bureau sud-africain et maintenant d'Israël. Un cousin des Mehta dirige les activités d'Anvers et avec mon père Arshad, nous nous occupons des activités au Moyen-Orient. C'est donc mon père qui a ouvert le bureau dubaïote de Rosy Blue en 2003. Avant cette date, le groupe entretenait ici des relations commerciales avec quelques clients. Mais avec la croissance du marché de détail, nous avons réalisé que nous ne pourrions pas l'alimenter d'une manière correcte à partir de Bombay. Nous devions être physiquement présents à Dubaï. Moi, je suis arrivé en 2006. En 2003, notre chiffre d'affaires ici était presque nul. En 2008, il a atteint 250 millions de dollars. Ça représente une augmentation de plus de 40% chaque année.
Je crois que quand le gouvernement de Dubaï a attiré, dans ce cas-ci, le marché diamantaire international, des centaines de firmes sont venues s'établir ici avec plusieurs buts. Un, certainement, ce fameux but pour faciliter les transactions, ce qu'on appelle communément le transshipment, mais également pour pouvoir être près de Bombay. Ce n'est qu'à 2h30 de vol. 90% de la taille se fait en Inde. Certainement au niveau cara, peut-être pas tout à fait au niveau de la valeur. Deuxièmement, Dubaï est extrêmement bien situé, est près de l'Afrique, est près de l'Inde, est près de la Chine et est près de l'Europe. Et puis, la région en elle-même est quand même une région riche et qui consomme de la haute bijouterie ou de la bijouterie même meilleur marché. Il faut pas oublier que il y a la communauté locale, mais il y a une énorme communauté expatriée. Et cette communauté expatriée vient, bien entendu, de l'Inde, du Sri Lanka, du Bangladesh, du Pakistan, mais d'autres parties du monde également. Et que ces gens gagnent mieux leur vie ici que dans leur pays d'origine. Et que traditionnellement, les savings, l'épargne de ces gens, étaient mis en or et aujourd'hui également en bijoux diamantaires. Allez vous promener dans les souks, allez vous promener dans tous les malls, vous allez voir des centaines et des centaines de grandes et petites bijouteries. Tous les grands noms de la place Vendôme sont présents dans cette région du monde, comme les petites boutiques typiquement pakistanaises et indiennes ou locales arabes sont présentes également. Et tout ça se côtoie et tout ça fait de gros chiffres d'affaires.
Violetta, nous sommes dans un café au dernier étage du Mall of the Emirates, qui est un des grands centres commerciaux à Dubaï, là où se trouve d'ailleurs la fameuse station de ski artificielle. Il y a dans ce grand centre commercial beaucoup de boutiques de luxe notamment, et en ce qui nous concerne, plus précisément des boutiques de bijouterie, il y a Cartier, il y a De Beers spécialisés en diamants, il y a aussi la boutique où vous travaillez qui vend des bijoux. Qui sont vos clients ?
Ce sont plutôt les clients, les Indiens, les Arabes, les Libanais, les clients libanais, d'origine libanaise, les Russes, de l'Est. Puis nous avons aussi les filles émiraties qui deviennent de plus en plus, indépendantes elles s'achètent elles-mêmes ces bijoux. Elles recherchent surtout quelque chose de provoquant, de montrer leur indépendance et en même temps le niveau social. Elles recherchent la reconnaissance. Et puis, j'avais une fille qui est très jeune qui est venue choisir une bague. Elle demandait la plus chère. Donc, elle a pas choisi par la collection ou par la beauté de cette pièce. Elle voulait uniquement avoir une pièce qui avait beaucoup plus de diamants qu'une autre, qui était d'ailleurs plus jolie sur son doigt que celle qu'elle a choisie, qui peut-être ne convenait pas du tout.
Les paiements en cash pour du bijou diamanté ou d'autres produits en vente dans votre boutique, ça peut atteindre jusqu'à quel montant, par exemple, c'est déjà arrivé ?
Avec les diamants, ça peut monter jusqu'à 10 000 euros. Voilà.
Et quand quelqu'un vous fait un achat de 10 000 euros, 20 000 euros, ou enfin, je sais pas, en cash, ça se passe comment ? Il arrive avec sa valise, son attaché caisse ?
Normalement, c'est avec un petit sac de chez d'une marque très connue, c'est de chez Montblanc ou de chez Dupont. Ils portent leurs billets et leurs billets précieux. En billets de 500, ça ne fait pas beaucoup non plus. Donc, mais en dirham, oui, ça fait beaucoup. Donc, en dirham, c'est une valise.
Manish Kothari, vous êtes donc fabricant de bijoux, vous les revendez, il y a toutes formes de bijoux, hein, de l'or bien sûr, des pierres précieuses qui viennent de toute l'Inde et également du diamant. Quel rôle joue le diamant notamment ? Est-ce que les bijoux en diamant sont de plus en plus demandés ici ?
If you ask for jewelry, as in diamond,
les bijoux diamantés comptent pour 70 à 80% du total de nos ventes, dont 10 à 15% concernent les bijoux en or.
Gold and the rest is labor.
Le cœur de notre business, c'est le diamant. C'est l'or qui se taille encore la plus grosse part du marché de la bijouterie à Dubaï, mais nous nous concentrons principalement sur le diamant.
Et les bénéfices importants que vous réalisez ici à Dubaï et qui ne sont pas taxés, comment faites-vous pour les rapatrier à la maison mère en Inde ?
En
tant qu'Indien non résident, nous avons un certain nombre d'avantages. Le bénéfice que nous réalisons à titre personnel, nous pouvons l'envoyer à nos amis ou aux membres de notre famille sans payer de taxes. Je peux rapatrier ces fonds soit sous la forme de cadeaux, de dons, soit comme un investissement personnel. Cet argent devient un capital que je donne. Il peut être utilisé pour être investi dans l'immobilier, réinvesti dans la compagnie, ou bien juste pour être dépensé.
Et ces dons que vous effectuez auprès de vos amis ou de vos proches en Inde, Manish Kothari, comment transite-t-il ?
Cet argent transite par la banque et par les canaux officiels. C'est la meilleure façon de le transférer. Nous n'utilisons aucun circuit non officiel.
Nicolas Zouaghi-Mollet, vous êtes avocat d'affaires au barreau de Paris, spécialiste aussi de l'anti-blanchiment, ce profit qu'on réalise à Dubaï. Quelle technique peut-on utiliser lorsqu'on est une grande compagnie diamantaire pour rapatrier ses liquidités ? Au siège, on a besoin d'argent pour payer ses employés, etc.
À Dubaï, vous avez tous les services financiers que vous pouvez imaginer. Donc effectivement, on peut avoir des transferts de fonds organisés de façon parfaitement institutionnelle par un canal bancaire traditionnel. Et il y a une autre façon aussi de transférer de l'argent qui sont là les réseaux plus informels. On a beaucoup, du fait de la présence d'une forte main-d'œuvre immigrée, des volumes d'argent considérables qui sont renvoyés par les ouvriers et les personnes qui viennent, encore une fois, travailler de façon saisonnière ici, dans les services, dans tout un tas de secteurs. Ces gens-là qui sont un peu rebutés par le montant des frais bancaires, les frais de transaction, les frais de transfert, passent par des agents informels qu'on appelle les hawaladers. Alors, ce que l'on voit, c'est qu'ils fonctionnent tel que le nom hawala l'indique, sur la confiance. On va voir un agent qui a lui-même à l'étranger un agent sur place et qui s'occupe du transfert en faisant un système de compensation. En fait, par exemple, il va garder l'argent qu'on lui donne en dépôt. Donc, comme il n'y a pas de transfert, il va devenir en fait dépositaire de fonds, ce qui lui donne une trésorerie. Et il va retenir sa commission. Et quand il reçoit, à l'inverse, un ordre de paiement sur place, il va utiliser cette trésorerie pour payer la personne qui doit recevoir de l'argent. Un wallader va faire un transfert n'importe quel jour, va payer à tout moment. Une banque a des heures d'ouverture, des obligations de compensation qui font que les transferts ne se font pas, peuvent prendre plusieurs jours quand il s'agit de petits montants, tandis que les Awaladers vont très vite. Donc il y a des économies importantes et les Awaladers sont plus intéressants, par exemple, que les banques, puisque les frais d'opération sont moins élevés et parfois le taux de change est plus favorable.
Les deux grandes banques diamantaires, la banque diamantaire anversoise qui appartient au groupe de la KBC est établie ici, et ABN AMRO Bank était également établie. Donc notre rôle, c'était de pouvoir avoir d'autres banques qui étaient intéressées dans ce marché, et nous avons trouvé aussi bien des banques internationales que des banques locales, parce qu'il y a une partie du marché qui se fait localement et qui a besoin d'une bonne banque pour ce genre de transactions locales.
C'est un marché profitable pour les banques, le crédit accordé aux diamantaires ?
C'est un marché très profitable. Parce que l'actif d'un diamantaire sont ses marchandises, et éventuellement ses à-recevoirs. Quand je parle de marchandises, bien entendu, c'est du diamant. Comme banque, je ne peux pas prendre ce diamant dans mes coffres, ou je ne peux pas prendre vraiment d'une hypothèque comme je peux faire ça sur un bâtiment ou sur un navire, parce que je lui enlèverais le moyen de travailler et le moyen de me rembourser. Donc, je confie ce stock, cet inventaire au diamantaire. Mais vous savez très bien qu'un stock de diamants de quelques millions de dollars, vous pouvez l'avoir dans votre poche de gauche sans qu'elle soit beaucoup plus grosse que votre poche de droite. Donc il y a un risque qui est important, et parce que l'actif pourrait disparaître. Et quand il y a un risque important, le banquier exige une rémunération plus importante.
Vijay Nainani, vous êtes directeur général de la bijouterie Didi's, installée ici dans ce New Gold Market Center Souk. À Dubaï.
I was born and brought up in Hong Kong. I set up here in 96.
Je suis indien d'origine, je connais bien ce pays, mais je suis né et j'ai grandi à Hong Kong. Je me suis installé ici en 1996, juste avant la rétrocession de la cité à la Chine. Bon, je dois vous dire que, traditionnellement, pour beaucoup d'Indiens, et notamment dans le business, aller voir une banque pour emprunter de l'argent ne va pas de soi. Historiquement, les autorités indiennes ont maintenu un niveau de taxes très élevé, ce qui a malheureusement amené beaucoup d'entrepreneurs indiens à ne pas tenir trop rigoureusement leur comptabilité. Cela explique aussi que le recours aux prêts bancaires leur soit rarement apparu comme une bonne option, parce que cela suppose de tenir ses comptes à jour, de réaliser des audits. Vous avez donc beaucoup d'entreprises qui en financent d'autres, parce que les plus grosses réalisent des bénéfices grâce à cette activité, et les plus petites ont accès avec ce système aux liquidités dont elles ont besoin.
Diriez-vous que dans la crise financière internationale qui frappe l'économie en général, et y compris celle du diamant depuis novembre 2008, est-ce que vous diriez que cette façon des diamantaires indiens de se financer les uns les autres constitue pour eux un avantage spécifique et les met à l'abri d'une crise de liquidité que rencontrent d'autres grandes entreprises du diamant et dans d'autres secteurs de l'économie?
Oui, j'en suis certain. Le commerce entre Indiens repose beaucoup sur la confiance, aujourd'hui encore, et en particulier dans notre secteur d'activité. Et ce système qui consiste à se prêter de l'argent de business à business permet de rendre l'accès aux fonds beaucoup plus rapide, en quelques minutes, souvent par un simple coup de fil. Cela a donné aux Indiens un avantage décisif dans le passé et maintenant, avec l'effondrement de certains acteurs financiers majeurs, ce système va continuer à jouer en faveur des Indiens.
Imaginons, Nicolas Zouaghi-Mollet, je suis un diamantaire, un grand diamantaire indien, par exemple, issu d'une certaine région de l'Inde, souvent le Gujarat. J'ai, au sein de ma famille, souvent issu de la communauté Jain, disponible de par le monde, une grande diaspora de gens présents parfois en Afrique, parfois aux États-Unis, bien sûr en Inde aussi. Je suis à Dubaï, je récupère beaucoup de bénéfices ici
de mon activité, des bénéfices qui ne sont pas taxés, qui ne sont pas comptabilisés non plus, il n'y a pas d'obligation comptable ici à Dubaï. Comment ça se passe concrètement pour pouvoir transférer des fonds de manière non officielle à mes différents amis, cousins, indiens, de par le monde?
Justement, les réseaux familiaux qui font partie de la communauté d'affaires peuvent servir à eux-mêmes transférer des gros montants parce qu'ils ont, par exemple, une activité qui n'est pas une activité, seulement une activité de transfert d'argent. C'est-à-dire que, par exemple, on va servir d'une activité de commerce, d'import-export la plupart du temps, pour, en parallèle, infiltrer dans le flux financier lié à l'activité centrale un flux financier lié à une activité, finalement, de transfert de fonds. On peut avoir aussi des jeux sur le montant des factures. On va surfacturer certains montants sans les payer. Donc, se créent des créances et des dettes entre des opérateurs qui se trouvent sur des territoires différents. Dans le trou qui est créé entre la dette d'un côté et la créance de l'autre, est créée la possibilité d'insérer de l'argent. Et donc, inévitablement, après, je dirais ce système est possible parce qu'il y a moins de contrôle des autorités fiscales. La comptabilité peut s'arranger partout. On l'a vu, hein, on entend des scandales, même en Occident. La comptabilité, c'est un art. Donc, même s'il y a des règles, artistiquement, on peut faire des choses qui ressemblent à du flou, qui passera très bien. La région ici ne fait pas exception par rapport à cela.
Basically, Aminia, again, you're asking about the concept of the double books, and it's a very
Le concept de la double comptabilité est très célèbre dans l'industrie du diamant. La meilleure façon de le mettre en œuvre, c'est de créer des sociétés écrans qui dépendent de juridictions différentes. Ces sociétés écrans réalisent des transactions entre elles qui remontent toutes jusqu'à une seule et même compagnie. Je vais donner un exemple fictif. Imaginons que la première société écran achète un diamant $10. Par un simple jeu d'écriture, elle le revend avec une marge de $20 à une deuxième société écran. Donc la même marchandise ne vaudra plus 10, mais $30. Et ainsi de suite, jusqu'à atteindre un très gros bénéfice. Et là, le tour est joué. Ce système permet de dissimuler les profits réalisés aux autorités de régulation. Les compagnies qui utilisent ce système tiennent à jour deux comptabilités. Sur le premier livre officieux, elles répertorient exactement les transactions qui leur permettent d'augmenter artificiellement la valeur des diamants. Mais c'est le deuxième livre officiel qu'elles montreront en cas de contrôle. Regulatory authorities.
Dubai can only play a role. Dans le domaine des pratiques fiscales illégales, Dubaï peut jouer un rôle parce qu'ici, personne n'est obligé de tenir des livres de compte. C'est un paradis fiscal. Bon, mais je vais quand même un peu nuancer mon propos. On peut aussi faire ici des choses tout à fait légales. Vous voulez que je vous donne un exemple ? Imaginez, vous voulez exporter un lot de bijoux depuis l'Inde vers l'Europe. Vous avez fixé votre marge sur la vente de ces bijoux à 20%. Vous ouvrez un bureau à Dubaï et vous vendez une première fois votre lot ici, à Dubaï, mais en réalisant seulement une marge de 2%. Et le bureau de Dubaï revend ensuite la marchandise avec une marge supplémentaire de 18% sur les marchés européens. Donc vous réalisez l'essentiel de vos profits dans l'Émirat et ces profits ne sont plus taxables.
Concernant le rapatriement vers des ensembles régionaux plus organisés comme l'Europe, nous avons remarqué dans nos recherches que de grands groupes du diamant ont souvent leur centre financier, leur holding financier dans un pays comme Luxembourg. Comment ça marche ?
Les transferts d'argent, les remontées d'argent vers des pays qui sont donc, en ce qui concerne l'Europe, le Luxembourg ou la Suisse, se font relativement facilement puisqu'on est là dans deux destinations qui ont à la fois un système de fiscalité privilégié et en même temps un système qui se veut moins regardant sur les montants transférés. Luxembourg, en tant que tel, c'est une taxation moindre des profits.
Admettons, je suis une entreprise, une grande entreprise du diamant, indienne par exemple. Je peux acheter ici à Dubaï une pierre africaine, plutôt à bas prix, que je fais venir ici à 20 dollars, admettons. Je peux ensuite la vendre à une société sœur, filiale, aux Émirats, avec un petit bénéfice que j'enregistre. Puis cette société sœur peut revendre également cette même pierre à un prix bien plus important, comme par exemple 60 dollars à ma holding située au Luxembourg, qui elle-même peut la revendre à 95 dollars à la société mère basée à Anvers, qui enfin va la revendre à 100 dollars avec presque zéro bénéfice à Anvers, dans un pays qui est fortement taxé, et par contre des gros bénéfices qui ont été réalisés à Dubaï et à Luxembourg. C'est comme ça que ça peut marcher, par exemple.
C'est vrai que toutes ces options sont des options d'optimisation fiscale qui sont utilisées. C'est un peu l'expression de la liberté des affaires. Et bien évidemment, les opérateurs du diamant cherchent, comme tout opérateur qui fait des profits élevés, à minimiser l'imposition qui va dessus.
Jean Van Der Donckt, lorsque vous dites que vous avez voulu, à Dubaï, recréer Anvers en verticale, recréer ces rues au Venierstraat, Pelikanstraat, du quartier diamantaire d'Anvers en verticale, il s'agissait de recréer exactement Anvers ou il s'agissait de recréer Anvers avec des choses en plus, des choses en moins?
Anvers a bien marché pendant, et marche encore, est quand même encore toujours très important, pendant plus de 50 ans. Alors, on s'est dit qu'il ne fallait quand même pas réinventer l'eau chaude, mais peut-être que l'eau pouvait être filtrée d'une meilleure manière. Et c'est ce que nous avons essayé de faire ici à Dubaï. Nous donnons la possibilité à plus de 250-300 firmes à s'installer dans ce Almas Tower. Pour avoir un marché, il faut que les gens soient près l'un de l'autre. Donc, il faut avoir les possibilités d'avoir des bourses. C'est ce que nous avons fait. Il faut donner des possibilités d'importer ces marchandises, d'exporter ces marchandises. C'est ce que nous avons fait. Dans la tour Almas, il y a le Diamond Office qui représente la douane, le Kimberley Process, bien entendu également, qui fait partie aussi du Diamond Office, la sécurité. Il ne faut pas oublier que ça représente quand même à chaque moment... c'est très simple. Dubaï a fait l'année passée à peu près 15 milliards de chiffre d'affaires. Donc il faut bien se dire qu'il y a à chaque moment, je dirais, si on prend un turnover de 30 jours, eh bien, il doit y avoir plus de 1 milliard, entre 1 milliard et 1 milliard et demi, hein, rien que chez les négociants. Cette sécurité est nettement plus contrôlable dans une tour comme celle-ci, que dispersée dans des souks à l'ancienne. Nous comptons qu'il y aura quand même entre 6 et 8 000 personnes qui rentreront et sortiront journalièrement de cette tour.
Peter Meus, dans cette stratégie de faire de Dubaï le grand centre du diamant pour cette grande région, comment vous y prenez-vous ?
Notre objectif, c'est de d'abord finir notre infrastructure, la Almas Tower, pour que tous les gens qui ont acheté peuvent maintenant prendre leur bureau. Hein. Tous les grandes firmes diamantaires ont acheté des bureaux. Rosie Blue, Dimexon Eurostar, Taché, Steinmetz, Interest Gems, Super Gems, des très grandes firmes. L'endroit où vous êtes maintenant, de ce qu'on appelle le Jumeirah Lake Towers, quand je suis arrivé ici, maintenant vous avez 50 bâtiments, au moins de 50 étages, ici, Jumeirah Lake Towers. Quand j'arrivais ici, il y a 2 ans et 9 mois, c'était du sable. Et notre executive chairman, Ahmed Bin Sulaim, dans son Range Rover, on conduisait ensemble dans le sable. Dans le désert. Et il me disait, Peter, tu vois, there will be the Almas Tower. C'était comme une mine. C'était un trou dans le désert. Et ça, c'est le secret de Dubaï. On a évidemment ce régime fiscal qui est en effet favorable pour les affaires. Et avec le DMCC, on va essayer d'ouvrir toutes ces portes dans tous les pays voisins, et particulièrement l'Arabie Saoudite, qui fait plus que 65% de la consommation totale de bijoux dans cette région, avec la Turquie, avec tous ces pays voisins ici.
Rosie Blue is one of the big houses of jewelry as well. We have
Rosie Blue est aussi un bijoutier important. Nous réalisons un tiers de notre chiffre d'affaires global dans ce secteur.
We have factories in India.
Nous avons nos propres usines de fabrication de bijoux en Inde et à Colombo.
We have different job work factories where they work only for us.
Nous faisons également appel à des sous-traitants en Arménie, en Chine, à Bangkok, au Liban, en Turquie. Ce que nous voulons créer à Dubaï, c'est un studio de design de bijoux pour l'ensemble de nos bureaux. Nous avons créé 20 marques de bijoux en 2 ans. Certaines sont pour les pierres de couleur, d'autres ciblent les femmes actives de 30 à 40 ans. Nous en avons également pour les teenagers, les personnes plus âgées, les hommes. Pour nous, Dubaï est un marché test, parce que la population est très diverse. Il y a énormément d'expatriés et de touristes. Alors nous pouvons savoir précisément quelles sont les marques de bijoux qu'aiment les Russes, les Européens, les Américains, les Émiratis, les Indiens, les Asiatiques. Nous voulons observer ce qui se passe ici pour globaliser nos gammes. Rosie Blue ne vise pas la bijouterie haut de gamme. Notre cible, c'est le marché de masse des bijoux de milieu de gamme, dont les prix seraient compris entre 1 000 et 2 000 dollars.
Manif Kotari, vos bijoux, vous les vendez essentiellement ici à Dubaï ou vous les distribuez également dans d'autres endroits du monde pour toucher une clientèle internationale?
Nous avons des clients en Australie, au Japon, à Hong Kong, à Bangkok. L'Inde est aussi un gros marché pour nous. Nous vendons également dans la totalité du Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, en Égypte, en Turquie. Nos clients se trouvent aussi en Europe, en Belgique, à Paris, Place Vendôme. Et enfin, aux USA, à New York et Los Angeles. Nous sommes présents dans le monde entier.
Le lieu géographique le plus important dans vos ventes?
Middle East and Europe.
Nous travaillons avant tout pour le Moyen-Orient et l'Europe, et plus particulièrement pour la France, qui est une des destinations touristiques privilégiées. Nous créons des bijoux destinés à ces deux marchés, et nous avons été surpris de constater que certains de nos clients parisiens ont commencé à acheter des bijoux que nous avions originellement conçus pour nos clients au Moyen-Orient.
La mondialisation en 57 facettes. Un grand voyage dans la petite famille du diamant.
Quatrième volet, Dubaï, Émirats Arabes Unis. Cheikh Emploi-Service.
La crise mondiale a fini par atteindre l'Émirat et entamer son boom diamantaire. Le Dubai Multi Commodities Center a revu à la baisse les prévisions de croissance et sa division diamant est désormais intégrée à une structure plus large comprenant les pierres de couleur et les perles. Jean van der Donck n'a pas renouvelé son contrat au sein du DMCC et a décidé de retourner temporairement à Anvers, estimant peut-être que les fondations historiques sont les plus solides.
Remerciements tout particuliers à Jean van der Donck. Merci à Sean Blore, Paul Boats, Maryse de la Peña, Alexandre Martin, Dilip Mehta, Mohamed Somji, Iris van der Weyken, Didier Verbruggen, Eddy Vlichtrager.
Avec les voix de Sophie Bobert, Didier Douet, Laurent Lederer. Documentation musicale, Antoine Vuillos. Mixage, Éric Boisset.
Avec le soutien de Radiophonie Europe. Sur les docks, Benjamin Bibas, Emmanuel Chicon, Jean-Philippe Navarre.
Diamantaire, croqueuse de diamants, banquier, expert,
LSD, la série documentaire, c'est tout pour cette semaine. Ce sont quelques facettes proposées par Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier. Et pour briller de tous vos feux, bibliographie, liens, mais aussi nous podcaster pour oublier ou nous réécouter pour devenir riche, c'est sur la page de l'émission, sur le site de France Culture. Vous y trouverez aussi le 5e épisode parisien de la série. Et vous pouvez nous trouver, nous, sur Facebook et sur Twitter. La semaine prochaine, nous irons rôder dans les drôles d'ambiance des marges du territoire.